Ravie de vous retrouver après la pause. Et la pause déjeuner est un endroit parfait. Regardez la tonalité des ressentis. On passe devant les magasins. Ouh. On passe devant une boucherie. Ouh. Quoi que ce soit. On passe... Ah, ça a changé. Avant j'y allais. Comme moi peut-être, vous êtes allé à la maison du Mochi. Puis après, il faut choisir lequel on veut. Le sésame était très très bon. Alors, le Mochi, c'est un truc de riz gluant avec du sésame noir. Et il y a beaucoup de chance que moi, quand j'en mange un, je pense, c'est tellement bon. Et je suis tentée de râler. J'ai failli aller en acheter un deuxième plus tard. Je me suis restreinte. Et il y a beaucoup de chance que si je vous le présentais, et que vous le goûtassiez, vous vous dites, mais quel est son problème pour aimer quelque chose de si bizarre? Et donc, ici on peut voir que le plaisant ou le déplaisant n'est pas dans la chose elle-même. Ça dépend de nous. Ça dépend de... notre rencontre avec la chose, notre culture, à quoi on s'est habitué, etc., etc. Donc ça c'est juste un petit encas avant le vif du sujet. Donc cet après-midi, je voulais regarder un petit peu le rapport qu'on pourrait faire entre être consciente d'une façon bienveillante des Vedanas et l'éveil. Parce qu'on pourrait se dire, être conscient des Vedanas, c'est un peu ordinaire. L'éveil, ça, c'est quelque chose. C'est extraordinaire, l'éveil. Mais en fait, si vous regardez dans les sutras, souvent, la définition de l'éveil, c'est en fait l'absence de quelque chose. Parce que souvent, on pense que l'éveil, on va devenir un peu comme un sapin de Noël illuminé. Mais en permanence. Donc on serait son propre sapin de Noël, pour toujours. Mais en fait, non, la définition, si vous regardez dans les sutras, l'éveil, c'est en fait une absence de quelque chose. Et c'est une absence de ce qu'on appelle les trois feux. Celui de la convoitise, celui de la haine et celui de la confusion. Et en fait, c'est totalement connecté aux tonalités, au Vedana, parce que sans réactivité à la tonalité plaisante, il n'y a pas de convoitise, de soif, d'envie. Sans une réaction sous-jacente à une tonalité dite plaisante, il n'y a pas la haine, le ressentiment, l'impatience. Sans une tonalité ni l'un ni l'autre mal comprise, il n'y a pas de confusion, d'esprit un peu flou. Quand une perception erronée. Et donc en fait, il y a vraiment cette connexion qui est faite avec l'éveil et la tonalité du ressenti. Mais l'absence... ce n'est pas une absence de Vedana. L'absence, c'est l'absence de réactivité de tendance sous-jacente au Vedana. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir. Parce que souvent, on pense soit on ne doit plus avoir de Vedana du tout, ce qui est impossible, ou soit, ça c'est une autre, souvent les gens pensent que on doit... Le but, c'est d'avoir une Vedana, ni l'un ni l'autre, tout le temps, toujours. Ça serait un peu ennuyeux, on pourrait dire, dans ce cas-là. Mais ce n'est pas l'idée. C'est en fait, comme il dit dans la définition des 108, Vedana, de nouveau, c'est le fait qu'on peut avoir une Vedana qu'on approche d'une façon ordinaire et là, les feux vont réagir. Et on peut avoir l'expérience d'une Vedana sans feu du tout. Et donc, on peut faire l'expérience plaisante, déplaisante, ni l'un ni l'autre, sans y ajouter quoi que ce soit. Et en même temps, avoir ce que j'appelle cet engagement créatif avec. Donc, regardons. On va les passer cet après-midi. Je veux regarder les désagréables et puis les agréables. Donc, la désagréable, quel est notre... Quand on a quelque chose qui est désagréable, qu'est-ce que c'est notre réaction immédiate? Alors, c'est ça qui est intéressant. Soit on la rejette, ou soit on l'amplifie, parce qu'on s'inquiète. Ça va durer tout le temps, comme on en a déjà parlé. Mais en fait... Une des choses qui va, la pleine conscience de la tonalité désagréable, la première chose qu'elle va faire, qui va vraiment nous aider, c'est en fait qu'elle va élargir la gamme. Parce que notre problème à nous, c'est qu'en fait, si on a déplaisant, désagréable, moins 1, presque tout de suite, on pense que ça va devenir moins 5 ou que c'est moins 10. Et en fait, la pleine conscience de cette tonalité va nous aider à voir que moins 1, ce n'est pas moins 5 et ce n'est pas moins 10. Et qu'en fait, en devenant plus conscient de, on pourrait presque dire, de la densité du désagréable, on ne va pas mettre la même optique sur tout, mais on va avoir des comportements créatifs différents. Comme je l'ai déjà un petit peu mentionné, c'est que on va voir que si c'est léger, en fait, on peut attendre que ça passe. Et moi, c'est souvent ce que je me pose cette question, combien de temps cela va durer ? Mais il y a deux choses à faire, en fait. C'est de remarquer que quelque chose a changé. Et donc, en fait, la contemplation, la pleine conscience du corps est très importante. C'est de voir que moi, ce que on fait son petit bonhomme de chemin, puis tout à coup, il y a un changement. Ça peut être un changement intérieur, ça peut être quelqu'un a dit quelque chose, on a vu quelque chose, et on ressent quelque chose d'un peu désagréable, un peu. Et alors, pour moi, la première question, c'est combien de temps ça va durer? Mais ça ne veut pas dire que je vais attendre 2 ans. Si ça continue pendant 2 ans, non. C'est, est-ce que ça dure 30 minutes? Est-ce que ça dure 1 heure? Est-ce que ça dure juste une journée? Donc, c'est juste dans ces cas-là. Et ce qu'on peut remarquer, c'est là. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les pensées qui arrivent? Et aussi de ressentir quand c'est parti. Parce que dans un sens, on va amplifier très vite. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais une douleur dans le corps. Et en ayant cette douleur dans le corps, j'avais l'impression... qu'en fait, l'air était douloureux autour de moi. Donc c'était tellement douloureux, c'était même un peu dramatique, je me disais, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et c'était comme s'il y avait de la douleur tout autour de moi, comme ça. Et puis, investigation revient, pleine conscience revient, au lieu de se dire, ah là là, je suis aux portes de la mort, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et donc, je fais en fait un balayage du corps. La tête, en fait, n'a pas mal. Le cou, les épaules, ils ont pas mal. Les pieds, les jambes, ils ont pas mal. Et je trouve que, comme d'habitude, j'ai mal dans les hanches et un peu dans le bas du dos. Et donc, de quelque chose qui était comme ça et vraiment, fou, ça allait être dur, hop, je suis revenue à quelque chose que je connais, que je pouvais m'occuper, que je pouvais soit aller au physio, au kiné, soit prendre des médicaments ou quoi que ce soit. Et donc, c'est ça la tendance sous-jacente par rapport à désagréable, c'est qu'on va l'amplifier très vite. Et donc, par rapport à l'éveil, l'éveil, c'est pas juste, c'est pas un état. L'éveil, en fait, c'est comme un éclairage. Il y a quelque chose, il y a une absence de quelque chose qui fait que c'est pas le vide qu'on a, mais on a un éclairage. Et donc, on voit avec cet éclairage, ah, où est-ce que j'ai vraiment mal? Combien de temps ça va durer? Ou alors, si c'est quelque chose qui se répète, quelles sont les conditions? Parce que ça, c'est vraiment l'enseignement du Bouddha. L'éveil, c'est d'être consciente que les choses sont conditionnées. De la même chose que il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup et quelqu'un d'autre vous dira c'est terrible, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, il n'y a pas une chose qu'on peut dire ah ça, tout le monde va l'aimer complètement. Ah, il y a des choses que tout le monde à peu près apprécie, mais il y aura toujours quelqu'un, ah, moi je ne suis pas sûre, hein. Il y a toujours quelqu'un qui a des goûts un peu différents, et donc ce n'est pas dans la chose elle-même. C'est donc la façon dont la chose est conditionnée en elle-même et la façon dont nous, on est conditionné par notre biologie, par notre culture, par nos expériences, etc., etc. Et donc, de voir, je pense que c'est ça, l'absence de ces réactions qui amplifient, nous aide à être plus clair, à voir plus clair. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, quand il y a quelque chose qui est désagréable et qui revient, ce qui est intéressant, c'est quel est le contact, quel est le déclencheur et quels sont les facteurs contribuants. Parce que c'est ça qui est aussi intéressant. On peut avoir le même contact, on peut avoir la même tonalité et on ne réagira pas. On n'aura pas cet effet d'amplification et on pourra se dire « Ah, il y a ça, comment je peux être avec ?» d'une façon créative. Et à d'autres moments, on aura le même contact, la même tonalité et on part dans un sens en vrille, mais souvent parce qu'il y aura un facteur contribuant. Le facteur pourrait être qu'on est malade, qu'on est stressé, qu'on n'a pas dormi, que on est submergé, enfin il y a plein de choses. Et je pense que c'est ça qui est important de voir. Quelles sont les conditions qui font que je vais aller vers plus d'amplification et quelles sont les conditions qui vont m'aider à aller vers moins d'amplification. Je pense qu'avec la tonalité désagréable, c'est ça qui fait vraiment un enjeu important. Ce qui est intéressant avec la tonalité désagréable et le fait qu'il y a cette réaction sous-jacente de pousser ou de amplifier, c'est que c'est avec les mots. Parce que ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que la méditation sur les sons, moi j'aime beaucoup la méditation sur les sons, qui va nous amener sur une écoute qui a de la sagesse et de la bienveillance, qui est créative, et aussi qui va nous amener à qu'est-ce qui se passe quand on entend des mots. Parce qu'on peut entendre des sons, mais une des choses que l'on entend le plus souvent, c'est les mots. Et qu'est-ce que c'est qu'un mot ? Un mot, en fait, c'est une onde sonore qui, la plupart du temps, a un sens. Mais dès qu'on a dit le mot, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est assis en méditation ? On va être assis en méditation et on parlait de souvenirs. On est assis en méditation, tout va bien, et puis tout à coup, on se rappelle quelque chose que quelqu'un nous a dit il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ah mais quand même ! Et là, on peut vraiment parler de tonalité du passé. Donc, tonalité du passé, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, quelqu'un vous avait dit quelque chose qui vous a heurté, qui a été désagréable, je suis d'accord. Mais le mot est déjà parti. Mais c'est comme il est toujours en nous. C'est ça qui est tellement intéressant. Qu'en fait, on pourrait presque dire que la tonalité désagréable est très évocative. Et donc c'est de remarquer que quand on a une tonalité agréable, qu'est-ce qui remonte ? Quand on a une tonalité désagréable, qu'est-ce qui remonte ? Et c'est intéressant, on est là, on va plutôt bien, puis pourquoi ? Je ne sais pas, c'est un peu désagréable. Et c'est comme s'il y avait un terreau dans lequel toutes les choses désagréables qui vous sont arrivées peuvent surgir. Alors ça peut être des moindres choses, ça peut être des choses plus importantes. Mais c'est aussi intéressant de remarquer quel est le terreau qu'on va un peu composter dans un sens. Alors des fois on peut rien y faire, parce que si les conditions extérieures sont désagréables, on ne peut pas y faire grand chose. Mais qu'est-ce qui va aussi nous soutenir dans cette épreuve ? Et autrement, qu'est-ce que nous on peut faire d'avoir par rapport à ce biais par rapport à ce qui est désagréable. Et donc, je reviens au mot, et pour moi, c'est en fait une pratique. Quand quelqu'un vous parle, qu'est-ce que vous faites avec ce qu'ils disent ? Est-ce qu'on s'identifie ? Ou est-ce qu'on a le choix de « c'est par rapport à moi » ou c'est pas par rapport à moi ? Parce que souvent on le prend très personnellement, cette personne me dit ça à cause de moi. Ça peut être vrai, vous pouvez avoir fait quelque chose, je sais pas. Mais je dirais que la plupart du temps, les gens disent des choses par rapport à eux. Et après, c'est à vous de voir. Est-ce que cela me concerne ou pas ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ou pas ? Et donc, c'est un peu cette tendance sous-jacente dont le Bouddha parle, c'est le fait, est-ce qu'on va s'agripper ? Et en s'agrippant, est-ce qu'on va amplifier ? Parce que si on regarde la façon dont on s'agrippe, disons que je m'agrippe à ça parce que quoi que ce soit. Mais si je m'agrippe, comme ça, 2 choses vont arriver. Première chose, je vais avoir une crampe dans le bras, surtout si je le fais assez longtemps. Et donc c'est un peu un signe d'agrippement de cette tendance sous-jacente quand il y a une tension. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Quand je m'agrippe comme ça, il y a le fait que je ne peux pas utiliser ma main pour faire autre chose. Et donc, on va se réduire à ce à quoi on s'accroche. Et en plus, si on s'accroche à un mot qui est vide, c'est encore, moi je dirais, c'est encore pire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de résoudre la situation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arrêter quelqu'un de faire quelque chose qui va causer du tort à soi-même ou aux autres. Mais je pense que de quelle position va-t-on être par rapport aux tonalités désagréables? Est-ce que immédiatement je vais m'agripper, je vais me réduire, je vais l'amplifier? Ou est-ce que je vais trouver en moi, c'est pour ça que demain je vais parler de l'équanimité, stabilité, équilibre. Parce que dans un sens, qu'est-ce qui va nous aider par rapport à la tonalité désagréable? En fait, c'est ce qu'on cultive en méditation, c'est le fait qu'on va s'aider à trouver une ancre, un enracinement, un refuge en nous-mêmes. Ce qui fait que quand on va faire l'expérience de ce contact qui est désagréable, ok, c'est désagréable, mais on ne va pas tout de suite s'agripper. Ce qui fait que comme ça ne va pas amplifier, ça nous sera plus facile de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut être avec. Après, il y a agréable. Et agréable, c'est la même chose en fait. Agréable, ce qui est intéressant et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on a besoin que de moins 1 pour vraiment connaître le désagréable, mais on a besoin de plus 5 pour se dire « Ah, c'est chouette. Finalement, c'est chouette. Ah, je passe du bon temps. » Et en fait, souvent, on trouve que c'est normal, 0 à plus 5. Ça va, c'est pas extraordinaire. Et en fait, si on fait cette pleine conscience des tonalités agréables, on va élargir de nouveau la gamme. Parce qu'on va être conscient des plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et donc ça va de nouveau élargir. Et une chose aussi par rapport au, bien sûr, quelle est la réactivité sous-jacente par rapport à agréable, c'est on veut que ça continue, on veut le répéter. Et c'est ça qui a la difficulté, parce que quand on veut que ça continue, et que ça ne continue pas à cause de l'impermanence, c'est là où je disais ça peut être délicat. Parce qu'il y a un écho d'agréable, mais parce que ça s'est arrêté, hop, ça peut devenir désagréable. Donc il faut faire attention là. Et il y a cette très belle histoire par rapport à ce grand maître thaïlandais qui est mort il y a plusieurs années, à Chan Chan, quand il avait sur sa table un très beau vase, et il y a un jeune étranger qui passait par là, qui lui dit « Ah, mais vous êtes... » Alors, quelqu'un qui a renoncé à tout, pourquoi vous avez ce beau vase? Vous devriez renoncer au beau vase aussi. Et Achanja qui lui dit, non, j'apprécie ce beau vase que l'on m'a donné, mais je sais qu'il est déjà cassé. Et donc, il n'y a pas agrippement, parce qu'il sait que oui, il est beau le vase, mais bon, à un moment donné, il sera cassé d'une manière ou d'une autre. Donc, il voit dans l'agréable que c'est déjà impermanent. Et donc, il n'y aura pas un accrochage en termes de « je veux que ça continue, je veux que ça continue pour toujours ». Ou autrement, l'autre tendance sous-jacente avec agréable, c'est la répétition. Donc, on passe un bon week-end avec nos amis, ils partent, ils sont sur le seuil de la porte, et on se dit, ah, il faut refaire ça. Et donc, on prendrait presque rendez-vous dans 2 mois, on se revoit pour faire exactement la même chose, pour avoir exactement la même tonalité agréable. Mais on sait que c'est pas possible. Même si on repart en vacances dans le même endroit, on peut avoir la même truc agréable, mais c'est pas donné, hein, c'est pas donné. Et est-ce qu'on peut en fait apprécier que c'était agréable, reconnaître que c'est fini, et que peut-être une autre fois, on pourra recréer des conditions agréables, mais c'est pas garanti. Et donc de faire attention, parce qu'on va essayer de reproduire la même chose. Et le deuxième problème avec la répétition, c'est surtout si jamais la chose est nouvelle. Ou si c'est quelque chose que vous n'avez pas mangé, par exemple, depuis très longtemps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec il y a très très longtemps, quand j'étais une nonne, que j'étais à Paris, et ayant vécu en Corée pendant 5 ans, j'avais pas eu de couscous. Et puis là, j'étais à Paris, j'étais près de Saint-Michel, donc je suis allée manger un couscous dans un restaurant à Saint-Michel. Et c'était extraordinaire. Le meilleur couscous que j'ai jamais, jamais eu. Donc, qu'est-ce que je fais le lendemain? Je vais dans le même endroit, je commande le même couscous, et c'est... Et c'est en fait ce que, de temps en temps, j'aime m'amuser avec ça, le fait que quand c'est nouveau, parce qu'il y a un contraste, ça va être vraiment chouette. Mais si vous essayez de le répéter, il n'y a plus de contraste. Et donc ça va descendre. Alors non seulement on a d'abord, je dirais par exemple, les couscous, c'était un plus 9. Si après j'ai le souvenir du couscous, ça va être plus 6. Mais si j'y retourne le lendemain, il est juste à plus 5. Le souvenir descend à plus 3. Moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime regarder qu'est-ce qui se passe. Et de regarder le souvenir aussi. Qu'est-ce qui se passe avec le souvenir? Est-ce que le souvenir encore, en fait, est mieux que le contact? Est-ce que le souvenir est moins bien que le contact? Est-ce que c'est égal? Et donc, on peut voir son rapport par rapport à la tonalité agréable. Et en fait, c'est un peu aussi ce qui se passe par rapport à la méditation. Alors, quand on commence la méditation, il va y avoir plus de contraste entre avoir beaucoup de pensées, entre se sentir agité ou quoi que ce soit, puis on médite, et puis on a la première expérience de ne pas être agité ou de ne pas être angoissé ou quoi que ce soit. Et c'est... Ah, c'est tellement chouette. Ah, c'est vraiment bien cette méditation. Ça marche. Mais le plus on médite, le moins on a de contraste. Et donc après 10 ans, vous dites, mais pourquoi j'ai pas ces expériences qui étaient chouettes au début? À cause du contraste. Donc de faire attention, est-ce que la tonalité vient de la chose elle-même, ou parce qu'elle est nouvelle, ou parce qu'il y a un contraste? Ça aussi, c'est intéressant à regarder. Donc, dans un sens, cette tonalité agréable, personnellement, et le Bouddha aussi pensait ça, hein, même que le Bouddha est réputé pour avoir dit qu'il y a de la souffrance dans le monde et qu'il faut qu'on essaye de voir comment ça marche, il n'a pas dit qu'il fallait qu'on souffre tout le temps. Là, il ne pensait pas que c'était une bonne idée, en fait. Parce que le problème, c'est que si on souffre beaucoup, on va être dans une tonalité désagréable et ça va être pas facile. Et donc, une de ces idées, c'était vraiment d'utiliser les deux, en fait. de ne pas avoir cette réactivité sous-jacente au désagréable, de ne pas partir dans la convoitise avec l'agréable, mais que l'agréable sans agrippement était essentiel pour qu'on se sente bien en tant qu'être humain. Il n'avait rien contre le fait que les gens se sentent bien, en fait. Il était très pour. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'en fait, il y a cette pratique que personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle mudita. Et donc, c'est la pratique de la joie appréciative, la joie altruiste. Et personnellement, je pense que c'est un moyen, pas le seul, mais une méthode par laquelle on va en fait créer un peu plus d'équilibre à cause du biais négatif qu'on a, pour de très bonnes raisons. Et donc, cette joie appréciative, elle ne va pas nous faire nous accrocher, mais elle va nous faire reconnaître « Ah, je suis bien, je suis en pied ». Mais pas seulement ça, elle va nous aider à être avec la joie des autres. Et ça, je trouve que c'est très important. Et donc, c'est pour ça que personnellement, je traduis mudita par joie appréciative, qui est en fait plus par rapport à nous, et joie altruiste, qui est par rapport aux autres. Et pour vous montrer un peu ça, je vais vous parler des trois phrases que je vais suggérer. Alors, si vous êtes habitué à ce qui s'appelle la méditation méta ou la méditation de la bienveillance, vous avez peut-être entendu parler des phrases, qu'on donne des phrases. Alors, les phrases, généralement, sont un peu, moi, je trouve problématiques par rapport au fait que souvent, elles sont mises comme un souhait, que tu sois heureux, que je sois heureux, ou des choses comme ça. La même chose avec la mudita, généralement c'est que votre bonheur continuasse, en plus en français, c'est un peu difficile avec notre grammaire, un petit peu compliqué. Alors moi pour la mudita, j'ai décidé dans un sens de créer mes propres phrases par rapport à l'aspect d'investigation, parce que la pratique est toujours... En partie, on se focalise sur quelque chose, on s'ancre dans quelque chose, et en partie, on explore quelque chose. Et donc, j'ai créé ces phrases pour qu'il y ait les deux ensemble. Un ancrage, avec une certaine orientation sur la joie, et en même temps, un petit peu d'exploration. Donc, alors, moi, en français, pour que ça marche, j'utilise... Je ne sais pas si on dit ça en français. Le gérondif. Ouais, ça se dit, ok. Donc, je suis dans les clous, bien. Donc, le gérondif. Mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire autre chose. Hein. On n'est pas... C'est juste des suggestions. Première phrase. Appréciant. Et là, vous avez trois différents articles. Mais c'est vos thés. Ah, mais c'est toujours compliqué en français. Hein. Allez, on y va. Appréciant mes efforts. Appréciant ses efforts avec un C, E-S. Appréciant vos efforts, appréciant tes efforts. La grammaire française, et c'est la joie du français. Donc pourquoi je suggère ça? Parce qu'en fait, moi j'ai remarqué que souvent on associe efforts et effet. Et si on fait des efforts et qu'il n'y a pas d'effet, on n'a pas essayé assez. Il faut qu'on essaye plus fort. Mais je pense que généralement, on fait le mieux qu'on peut, considérant les circonstances dans lesquelles on se trouve. Question d'énergie, question de ci, question de ça. Et donc, appréciant mes efforts, ça veut dire que ici et maintenant, j'apprécie les efforts que je fais en méditation, dans ma vie, dans quoi que ce soit, même s'il n'y a pas les effets que je voudrais. Après, vous pouvez dire c'est, dans le sens que des fois, ça fait une différence si vous dites « mais » ou « c'est plus impersonnel, c'est à vous de voir si ça marche. Et appréciant vos efforts ou tous efforts, c'est de la même chose. Souvent, on va dire à quelqu'un « ah, mais t'as pas assez essayé, il faut que t'essayes plus, il faut que tu mettes plus d'énergie. » Mais récemment, il y avait la femme de mon neveu qui disait qu'elle était à l'école pour ses filles, et dans le couloir, elle avait vu un professeur qui en fait criait après un couple de personnes, leur disant « vraiment, il faut vraiment que vous travailliez sur votre fils, il faut que vous fassiez travailler à la maison, il ne fait rien, il faut qu'il ait de meilleurs résultats. » Puis vraiment, il les invectivait par rapport à ça. Plus d'efforts, etc. Après, il voit la femme de mon neveu, et là, il est tout doux, tout gentil, c'est fantastique, vos filles, elles sont premières de la classe, elles ont des résultats étonnants, vous êtes une parente, une maman formidable. Et elle de me dire, mais moi, je fais rien, à part les aimer et le produire, enfin, et faire qu'elles ont un bon environnement, moi, je fais rien, c'est elles qui sont intelligentes, c'est pas à cause de moi. Et qu'elles aient des bons résultats, c'est pas à cause de moi. C'est en fait à cause d'elles, à cause de des conditions qu'elles ont. Et donc, elle s'est sentie tellement triste, en fait, pour ses parents, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'ils fassent le plus d'efforts qu'ils fassent, mais si le gamin, pour quelque raison que ça soit, est dyslexique, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Et donc, de faire attention, de voir que généralement, appréciant vos efforts. Et pour moi, quelque chose peut être facile. Et pour l'autre personne, ça peut être très difficile. Et tu dis, mais moi, je fais ça comme ça. Mais est-ce qu'ils ont les connaissances? Est-ce qu'ils ont les capacités? Et la même chose pour moi, il y a des choses que je ne vais pas faire aussi bien non plus. Et donc, de faire attention à ça. Et d'essayer de ne pas trop dire aux gens, essaye plus fort. Et donc, appréciant vos efforts. Après l'autre, c'est la deuxième phrase, me réjouissant, et après on peut avoir une petite liste à choisir, me réjouissant de mon bonheur, de ma clarté, de ma paix, de mon succès. Autrement, on peut mettre plus impersonnel, de ce bonheur, de ce succès, de cette clarté, de cette paix. Et là, c'est pour vraiment reconnaître que nous aussi, on a cette capacité. Et donc, mudita, c'est vraiment la pleine conscience de ce qui se passe en termes de tonalité agréable. De « ah, j'étais bienveillante, ah, j'étais claire, ah, j'ai pas fait d'erreur ou quoi que ce soit. » De se dire « ah oui ». Parce que le plus on sait ça, le plus quand on a l'impression que ça ne marche pas, on se rappelle que oui, des fois on peut avoir cette capacité, des fois non. Moi des fois je suis bizarre, hein. Je ne comprends pas, je ne piche pas et puis je pouf. Ou des fois je pars il y a quelque temps. C'était pendant le Covid peut-être. Je ne peux pas aller en ville ou quoi que ce soit, puis finalement je peux aller en ville, j'ai ma liste de courses, il me faut absolument ça et tout, j'ai un peu speed. Je vais dans le magasin Apple pour avoir un câble, et on sait, je ne sais pas si vous allez dans les magasins Apple, mais pour avoir un câble, c'est pas facile. Donc je fais mon petit tourbillon dans le magasin, me dis c'est pas assez rapide, et je ressors. Et je suis sur le pas de la porte à l'extérieur dans la rue et je me dis, s'il savait que je suis une enseignante de méditation, il ne le croirait pas. Et je me dis, calme-toi, on se réfugie dans un peu d'encre, un peu d'enracinement et on y va doucement. Et là, j'ai totalement changé un peu l'environnement Et j'y suis allée doucement, j'étais autre part, chercher mon câble et tout ça. Et donc oui, selon les conditions, les choses vont changer. Et donc de savoir quand on se sent bien, quand il y a cette capacité, cette habilité, cet état, et de vraiment être dedans, de le reconnaître. Et après, dans un sens, c'est presque comme si on pouvait se le rappeler quand on en a besoin. Et la même chose, est-ce qu'on peut... Alors ça, c'est plus dur. En principe, on est d'accord. Mais en vérité, quand quelqu'un vient avec une bonne nouvelle ou un projet ou un succès de quoi que ce soit, est-ce que votre première réaction, c'est chouette, fantastique et tout ça ? Souvent, c'est « mais est-ce que tu as pensé à ça ?» Et puis si jamais il arrive ça, ben alors « pou, pou, pou !» Et puis il y a ça aussi. Ah, mais tu n'y as pas pensé ? Alors ils arrivent avec cette grosse bulle de bonheur et nous, on pouf, le ballon. On fait un petit trou dans le ballon et pouf. Et pourquoi on fait ça ? Ça, c'est bizarre, hein ? Bien sûr, on peut le faire à cause de l'envie ou on peut le faire à cause de l'anxiété. Mais bon, ils sont contents, contents ici et maintenant. Est-ce que ici et maintenant, on peut se réjouir avec eux ? Et on verra plus tard. À moins qu'ils décident de faire quelque chose qui est vraiment, vraiment une mauvaise idée, là, il faut les arrêter. Bien sûr, c'est différent quelqu'un qui se réjouit de quelque chose que quelqu'un qui vous dit, comme une amie m'a dit il y a quelques années, je vais couper, j'ai décidé de couper le tuyau de ma voisine. Alors là, je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Je lui ai pas dit, parce que c'était pas la façon que ça marcherait. Alors j'ai fait un peu de tai chi. T'as pensé à ci, puis il y a ça, puis il y a aussi ça, puis il y a aussi ça. Donc j'ai pas été dans le négatif, mais j'ai essayé de. Et après j'ai laissé. Et puis un mois plus tard, je reçois une lettre où elle me dit finalement j'ai décidé de pas couper le tuyau. Je me suis dit pouf. Donc oui. Alors il y a des moments, bien sûr, on se réjouit, mais sans arrière-pensée, du bonheur de la personne. Et vraiment de faire attention à ça. Pour moi, ça c'est une pratique en fait. Et la troisième phrase, c'est avoir de la gratitude envers mon existence, cette existence, votre existence, ou mon potentiel, ce potentiel, votre potentiel. Et là, c'est juste un peu, je vois aussi mudita, comme le fait d'apprécier, de reconnaître le potentiel de vie que nous avons. On ne sait pas pourquoi. On est né, il y a plein de théories, mais on est né. On a une respiration, on a un souffle. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Le maître Zen que je suivais en Corée nous disait toujours « Votre vie repose sur un seul souffle. » Et il disait ça, pas pour nous faire peur, mais il disait ça pour être vraiment dans le présent. Est-ce qu'on peut apprécier ce souffle ici et maintenant ? Et est-ce qu'on peut faire du mieux dans les conditions dans lesquelles on s'en trouve, avec, pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter cet après-midi. Et donc, je veux faire une méditation guidée cet après-midi, utilisant les phrases, mais aussi vous montrant que par rapport aux quatre qualités, on peut soit utiliser les phrases si ça marche, soit utiliser l'expérience, soit utiliser la qualité. Vous allez voir, je vais le faire dans la guidance et vous allez comprendre. Ça a plus de sens que je le fasse dans la méditation. Et donc, si on se lève pendant 2-3 minutes, si on ouvre les fenêtres et la porte pour avoir un peu d'air frais.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.